La Bible parle beaucoup de la fin du monde. Qu'est-ce que la fin du monde? Doit-on craindre la fin du monde ou doit-on l'attendre courageusement? Que se passera-t-il après la fin du monde? Nous allons examiner ces questions aujourd'hui en continuant l'étude de la seconde épître de Pierre. Cette discussion se fera comme toujours dans l'esprit de tolérance et de bonne volonté envers tous. Ces émissions internationales vous sont offertes par l'Association des étudiants de la Bible Aurore, en coopération avec nos amis de partout. Pierre, en parcourant le troisième chapitre de la seconde épître de Pierre, je remarque qu'il a beaucoup de choses à dire sur la fin du monde.
C'est vrai, quoique Pierre ne se serve pas de l'expression « fin du monde », nous avons vu la semaine dernière qu'il parle beaucoup de la seconde venue de Christ. Et dans les prophéties de la Bible, la fin du monde est associée au second avènement de Christ. Le dernier chapitre résume ces deux aspects du plan divin.
Je remarque que Pierre, au début de ce chapitre, dit que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs qui diront « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Pierre, que signifie l'expression « depuis que les pères sont morts » ?
Elle s'applique à l'ancien peuple d'Israël, et c'est à eux que les prophètes de l'Ancien Testament adressèrent leur message. Dans un sermon rapporté par le troisième chapitre du livre des Actes, Pierre dit qu'à la seconde présence de Christ, il y aura des temps de rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. C'est pourquoi Pierre dit dans son épître que dans les derniers jours, lors de la présence effective de Christ, certains diront « Où est la promesse de son avènement ?» ou, comme dit le texte grec, « l'évidence de sa présence ». Car, depuis que la promesse de rétablissement a été faite à nos pères, il n'y a aucune évidence de son accomplissement.
Autrement dit, il leur semble qu'il y a plus de troubles que jamais dans le monde.
C'est exactement la pensée. Mais Pierre répond aux moqueurs qu'un grand temps de trouble aura lieu au début de la seconde présence de Christ.
Pour confirmer ce fait, Pierre se rapporte au déluge qui eut lieu dans les jours de Noé et dit qu'alors, un monde prit fin.
Il le fit parce que Jésus, dans sa prophétie, donne un aperçu des conditions qui existeront à la fin de l'âge, en disant « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. » Luc, chapitre 17, verset 26.
Ceci est tout à fait en harmonie avec plusieurs prophéties de l'Ancien Testament que nous avons examinées, indiquant que l'aurore du nouveau jour de la terre débutera par un temps de trouble décrit par Daniel comme étant un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. Daniel, chapitre 12, verset 1.
C'est juste. Pierre fait ressortir que les premières années de la seconde présence de Christ ne seront pas marquées par les bénédictions du rétablissement, mais par une période de destruction qui a pour but d'amener la fin du présent monde mauvais. La fin du monde n'est pas la destruction de la terre.
Es-tu sûr de cela, Pierre? Si la fin du monde n'est pas la destruction de la terre, qu'est-ce qu'elle est alors?
C'est plutôt la destruction d'un ordre social égoïste et pécheur, décrit par Paul comme le présent monde mauvais.
Mais comment pouvons-nous avoir l'assurance que les prophètes de la Bible, au sujet de la fin du monde, ne se rapportent pas à la terre elle-même?
Parce que Dieu nous a donné l'assurance, par le prophète Ésaïe, qu'il n'a pas créé la terre en vain, qu'il l'a établie et l'a formée pour être habitée.
Et une autre promesse de l'Ancien Testament nous assure que la terre subsistera toujours. Dieu a promis de rétablir la famille humaine pour vivre toujours sur la terre, ce qui signifie qu'elle ne sera pas détruite. Est-ce exact?
Oui, Thomas. Mais certains pourraient comprendre que la terre sera détruite à cause de l'expression de Pierre dans cet épître au 10e verset. Voudrais-tu nous la lire?
Oui, je veux bien. Il dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit ».
Paul dit que le retour du Seigneur comme un voleur et le jour survenant à son retour ne surprend que le monde incroyant. Mais les frères ne sont pas dans les ténèbres. Ils savent que le jour du Seigneur est venu. Mais continue de lire, Thomas.
Merci, Pierre, pour cet éclaircissement. Je relis depuis le début. « Le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. C'est un langage dur, et cela semble s'appliquer littéralement.
Pierre semble vouloir dire que la terre littérale sera détruite. Mais note bien, Thomas, qu'il dit aussi que les cieux seront détruits. Si nous l'appliquons littéralement, cela indiquerait la destruction de tout l'univers.
Ce qui ne semble pas raisonnable. Mais qu'est-ce que cela veut dire au juste?
Les mots « ciel » et « terre » sont utilisés symboliquement dans la Bible pour représenter l'aspect spirituel et physique de ce que Paul appelle la « terre d'à présent » ou « ordre social ». Dans ce chapitre, Pierre nous dit que les cieux et la terre qui existèrent autrefois périrent submergés par l'eau.
Oui, il est dit dans les versets 5 et 6, « Les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. »
Ainsi, tu vois, Thomas, que ce n'est pas l'univers qui périt dans le déluge, mais simplement l'ordre social qui existait auparavant. Et ce ne sera pas l'univers qui sera détruit comme un résultat de la seconde venue de Christ, mais simplement les institutions égoïstes des hommes. Et un nouvel ordre social sera établi sur leurs ruines. Ce sera le nouveau monde de Dieu de demain.
Oui, les nouveaux cieux et la nouvelle terre constitueront les aspects spirituels et physiques du royaume de Christ. C'est un symbole merveilleux. Tout comme le ciel littéral exerce une influence puissante sur la terre, ainsi Christ et avec lui ses disciples fidèles, qui vivront et régneront avec lui comme gouverneurs spirituels dans le nouveau royaume, exerceront un contrôle sur la terre par les représentants humains qui constitueront la phase terrestre du royaume. Qui sont-ils, Pierre?
La Bible indique que tous les fidèles du passé, commençant par Abel le Juste et se terminant par Jean-Baptiste, composeront cette classe. Ils seront décrits par le psaume 45, verset 17, comme ceux qui seront faits princes sur toute la terre.
Je me souviens de ce passage que nous avons vu en étudiant le livre des Hébreux. Au 11e chapitre, il est dit qu'ils participeront à une meilleure résurrection.
C'est exact. Tout comme Jésus et son Église ressusciteront pour être les gouverneurs spirituels du royaume messianique, ainsi ressusciteront ces anciens dignes pour être les représentants humains de ce royaume.
Ce n'est pas étonnant que le prophète Ésaïe prédit que c'est le zèle de l'Éternel qui accomplira cela. Pierre dit que nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Est-ce une référence à des promesses faites dans l'Ancien Testament?
Oui, une promesse merveilleuse de ce genre figure au 65e chapitre d'Ésaïe. Elle débute avec le verset 17.
J'aimerais lire ce que dit le verset 17. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Cela ne veut certainement pas dire que Dieu créera un nouvel univers, mais comme nous avons vu, il créera un nouvel ordre social qui sera le royaume de Christ.
Tu pourrais lire aussi le verset 20 de ce chapitre, Thomas.
Il n'y aura plus ni enfants, ni vieillards qui n'accomplissent leurs jours, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur, âgé de 100 ans, sera maudit. Qu'est-ce que cela veut dire, Pierre?
La traduction n'est pas très claire, mais la pensée est que lorsque le royaume de Christ sera pleinement établi, le peuple bénéficiera des bénédictions de vie qui changeront les expériences actuelles de l'humanité. Ceux qui obéiront aux lois du royaume ne mourront jamais. Les enfants ne mourront plus. Et ceux qui mourront à l'âge de 100 ans sont considérés comme des enfants, comparativement à ce qu'ils auraient pu vivre s'ils avaient obéi aux lois du royaume.
Je suppose que tous ceux qui croiront et obéiront auront pour héritage la vie éternelle. Sera-ce comme être humain?
Oui. Dieu créa l'homme pour vivre sur la terre. Il perdit la vie à cause du péché. Par Christ, pendant le royaume messianique de 1000 ans, la race humaine entière aura une autre occasion de vivre. Cette période du royaume est décrite par Pierre comme les temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes.
Pierre, ce point de vue est le plus exact, car le prochain verset dit « Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit.
Naturellement, tous dans le nouveau monde de Dieu ne bâtiront pas des maisons et ne planteront pas des vignes. Néanmoins, cette prophétie décrit les bénédictions terrestres. L'article « Espérance et perspective du chrétien » en dit bien plus long là-dessus. Thomas, voudrais-tu en parler à nos amis ?
Avec plaisir, Pierre. Chers amis, l'article « Espérance et perspective du chrétien » est le 9e d'une série examinant tous les livres de la Bible. Cet article traite les lettres des apôtres, Jacques, Pierre, Jean et Jude, et discute des sujets tels que ceux-ci. Qu'est-ce qu'un chrétien ? Pourquoi le monde n'est-il pas encore converti ? Pourquoi le monde d'aujourd'hui est-il rempli de craintes ? La manière et l'objet du second avènement de Christ ? Le jour du jugement ? Pourquoi savons-nous que le monde incroyant aura une occasion future au salut ? Les vivants peuvent-ils parler avec les morts ? Et bien d'autres sujets intéressants pour ceux qui désirent être plus familiarisés avec la Bible et ses enseignements importants. Demandez votre exemplaire gratuit de l'article « Espérance et perspective du chrétien ». Demandez l'article « Espérance ». Ce mot seul suffira. Cet article vous sera envoyé gratuitement et franco. Ce programme d'études bibliques vous est offert par l'Association des étudiants de la Bible Aurore en coopération avec les groupes locaux d'études bibliques et nos amis de partout. Nous serons à nouveau avec vous la semaine prochaine à la même heure. Parlez-en à vos amis et que Dieu vous bénisse tous.